Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Olivier Houzet, il est co-référent départemental de place publique dans les Côtes d'Armor. Il est également maire de Saint-Quay-Péros, il a fait la route pour être là avec nous ce matin. Je l'en remercie au micro de la matinale de Bretagne 5, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de politique ce matin, je le disais en commençant, vous êtes co-référent départemental de place publique dans les Côtes d'Armor. On va donc parler des élections européennes et de ce lancement de campagne et de ce meeting hier avec Raphaël Glucksmann, leader de place publique qui organisait son premier meeting à Tournefeuille près de Toulouse. Premier meeting commun avec le PS, il y en a eu d'autres avant, c'est important de le préciser. Et c'est important peut-être de préciser aussi comment fonctionne, je ne sais pas si on peut parler de tandem, hein, vous allez peut-être avoir un autre mot, ce tandem donc entre le PS et place publique.
Alors, on fonctionne d'une façon simple, c'est qu'on est, on fonctionne comme des associés dans une société, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une équité de représentativité, de représentation de, aussi bien sur la charte graphique que sur ces choses-là. Donc il y a un travail qui a été fait en échange avec le Parti Socialiste sur les modalités. Le seul sujet sur lequel il n'y a pas eu de négociation, c'est le programme. Où là, on a une unité d'accord sur l'intégralité du programme depuis le départ. Et ce qui fait qu'on peut, on peut travailler ensemble sans avoir d'esprit de compétition ou ce genre de choses. La deuxième raison pour laquelle on est ensemble, c'est qu'en fait, Raphaël avec Nora Mebarak siège déjà ensemble dans le groupe social-démocrate au niveau du Parlement européen. Et donc, il était évident que qu'on démarre ensemble, en tout cas sur cette campagne. Alors, au niveau de place publique, on avait laissé la porte ouverte à toutes les autres tendances de gauche européenne, européiste, sachant qu'elles ne le sont pas toutes. Et après, ben, chacun s'est positionné, mais en tout cas, l'association, puisqu'on peut parler d'une association, du PS et de place publique, était une évidence pour tout le monde, aussi bien pour les socialistes que pour les places publiques. Voilà, donc on ne peut pas parler d'union à proprement dit, puisqu'en fait, sur des sujets peut-être un peu plus nationaux, on aura des divergences, des légères divergences, mais en tout cas, on a une vraie association sur toute la campagne des européennes, puisque place publique aujourd'hui, c'est les européennes et que les européennes.
Alors, nous allons parler des européennes, évidemment, ce matin, avec des sondages qui sont intéressants, puisque Place Publique et le Parti Socialiste sont crédités de 9 à 13% d'intention de vote, avec une remontée, étalonnent donc désormais Renaissance. Alors, on notera quand même en troisième position la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella. Est-ce que c'est... Je pose souvent la question aux différents intervenants ici dans la matinale. Est-ce que c'est un souci d'inquiétude, cette... forte poussée du Rassemblement National ?
Pour nous, oui, bien sûr. On a toujours eu une position claire et radicale vis-à-vis de l'extrême droite. Donc il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'accord possible, il n'y a pas d'entente possible. Je crois que sur la totalité des votes qui ont été faits au Parlement européen, on est toujours en divergence. Donc, et au niveau départemental et régional, et surtout en Bretagne, où on a une vraie montée de l'esprit fasciste et des groupuscules, il y a une vraie volonté de lutter contre. Et qui, oui, voilà, la Bretagne qui n'a aucune raison, qui n'est pas une terre fasciste. Le sujet sur Callac, par exemple, qui nous a porté... voilà, il y a des sujets comme ça où, en fait, on se bat contre ce type d'idéologie. C'est pour ça aussi que Raphaël a refusé, par exemple, d'aller débattre sur CNews, puisqu'on considère que CNews, elle, promeut cette idéologie.
Alors justement, il y a ce débat autour des médias. Alors CNews, on le voit aujourd'hui avec l'audition des différents responsables de la chaîne. Est-ce qu'il faut interdire, par exemple, une chaîne comme CNews ? Est-ce que c'est une chaîne qui peut, orienter l'opinion publique ?
Alors... J'ai envie de dire, toutes les chaînes de radio orientent l'opinion publique. Toutes les chaînes ont une tendance politique, même si on est du centre-gauche, centre-droit, voilà, même la presse écrite. Après, est-ce qu'il faut l'interdire ? Il faut surtout surveiller, et la surveiller comme toutes les autres, j'ai envie de dire. Et être vigilant sur ces dérives. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'appartenance de ces grandes chaînes à une ou deux personnalités uniques, hein, que ce soit Bolloré ou Saadé, enfin voilà, les sujets d'actualité sur... Et c'est là où il y a une vigilance à avoir de dérapage de ces personnalités sur la ligne éditoriale et politique des différentes radios.
Est-ce que Raphaël Glucksmann n'aurait pas dû finalement dire « si, je vais aller débattre pour essayer de convaincre justement peut-être des téléspectateurs, des téléspectatrices de CNews »
Ça, moi je suis tout à fait en accord avec la décision qu'il a prise. Après, vous parliez de bienveillance tout à l'heure. On n'est pas dans la bienveillance quand on est sur CNews. Hein. Quand on entend Pascal Pro, j'écoute un petit peu quand même. Parce qu'il y a un moment donné, il faut suivre aussi toutes les bêtises qui se disent. Aller se présenter sur une chaîne comme celle-ci, c'est lui donner de l'audimat et donc donner de la visibilité à une chaîne qui, encore une fois, soutient des idéologies contre lesquelles on se bat sur le terrain, au jour le jour, en Europe et dans le reste du monde, puisqu'il y a malheureusement des pays qui ont ces idéologies-là.
Alors on va parler du reste du monde, évidemment Olivier Houzé, mais il y a ce climat aujourd'hui de défiance vis-à-vis de l'Europe, on le voit, beaucoup de Français, beaucoup de Bretons, même si les Bretons sont quand même plutôt pro-européens.
Oui,
on voit ce climat de défiance vis-à-vis de cette Europe qui souvent, de cette Union européenne qui souvent, en tout cas vis-à-vis de en tout cas si on prend l'avis des Bretons et des Français, est très éloigné de leurs préoccupations. Est-ce que là, il y a un réel travail à conduire pour faire comprendre comment l'Europe, finalement, agit sur notre quotidien ?
Déjà, on est aujourd'hui dans une situation tellement grave que seule l'Europe peut garantir une protection sociale, une protection sur le agricole, une protection alimentaire et une protection militaire. Voilà. Mmh. Donc, les gens, ou en tout cas les mouvements qui se disent pas pro-européens, sont tout simplement à côté de la plaque. Encore plus cette année, puisqu'on est sur un continent en guerre, on risque d'être abandonné par les États-Unis sur les traités transatlantiques, et on a un tyran à nos portes, et on a des problématiques d'alimentation, d'agriculture, etc. Et tous ces sujets-là, seule l'Europe peut y répondre. Donc, quand on dit l'Europe est lointaine... C'est vrai sur certains domaines où, en fait, l'Europe est obligée de travailler de façon globale. Mmh. Et donc, est plus globale par rapport à de la géopolitique, par rapport à... Mais on la ressent tous les jours, en fait. Et c'est là où il faut, en effet, renseigner les gens sur qu'est-ce que l'Europe apporte à chaque citoyen dans sa vie de tous les jours. Ne serait-ce que sur la gestion de la politique agricole commune, qui est totalement inadapté actuellement.
Et on le voit avec les agriculteurs, voilà. qui manifestent.
La politique agricole commune actuellement fait bénéficier aux très gros agriculteurs des subventions énormes et laisse mourir les tout petits, qui sont ceux qui justement se manifestent en ce moment. Donc il faut la revoir en profondeur. Et après, il y a aussi toute la partie aide subventionnée sur les fonds FEDER, les fonds LEADER, etc., qui permet aux collectivités régionales, départementales et communales de réaliser des projets avec un degré de vigilance, de critères, etc., qui est très pointu. Faire un dossier de demande de subvention à l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué, je le sais puisque je suis élu, que d'aller chercher des subventions, on va dire, plus locales. Quoi. Voilà, il y a ces deux sujets-là, et le sujet qui devrait être le cœur de ces élections, c'est la défense. Mmh. Voilà. Nous, on est pour une Europe de la défense. On se dit que la France ne peut plus à elle seule se défendre contre un envahisseur éventuel, ou en tout cas un État important qui est un adversaire.
Mmh. Voilà. Alors justement, on va en parler, vous m'avez un peu devancé, mais c'est très bien finalement, de cette Europe de la défense. Évidemment, on a cette guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, avec des événements qui sont survenus, on l'a vu avec l'attentat commis à Moscou et revendiqué par Daesh, alors que Vladimir Poutine, lui, sous-entend une responsabilité de l'Ukraine. Est-ce que là aussi, il y a une forme de distorsion que l'on observe et qui devient très inquiétante finalement ?
C'est encore une fois la preuve qu'on ne peut pas discuter avec ce genre de personnage, puisqu'en fait, il est dans la manipulation de A à Z. Il a été, depuis le départ, quelqu'un de tout sauf fiable. Voilà. Et ça, Raphaël Glucksmann le dit depuis de nombreuses années, hein, depuis 2014, même avant, lorsqu'il avait attaqué la Géorgie, etc. Donc là-dessus, on n'a pas changé de ligne. Mmh. La paix, bien sûr. Mais à quel prix ? C'est-à-dire la paix en négociant, en allant négocier avec un envahisseur qui est tout sauf fiable, ça me paraît complètement aberrant. Donc pour obtenir une paix en Europe, il faut de la fermeté et donc se défendre. Et se défendre, ça veut dire aider les Ukrainiens à maintenir la première digue. Voilà.
Donc aider les Ukrainiens, bien que ça fasse pas forcément l'unanimité. On parle beaucoup d'argent, évidemment. Il y a cette crise qui est là. Et là aussi, les gens disent souvent, on entend ce discours assez simpliste qui dit, ben voilà, on aide l'Ukraine et nous, on a du mal. Et puis, il y a la parole présidentielle également. Le président de la République qui s'est exprimé, qui a dit, ouais. Voilà, on n'estime pas d'envoyer des troupes.
Aider les Ukrainiens dans les actes, pas dans les paroles, déjà. Il faudrait déjà que la France et l'Europe tiennent leurs engagements avant d'annoncer des choses complètement ubuesques, comme le fait d'envoyer des troupes. Je pense que le débat qu'a ouvert Emmanuel Macron sur cette histoire de troupes françaises en Ukraine est un faux débat, c'est pas l'actualité. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas l'idée aujourd'hui c'est de faire tout pour que ça n'arrive pas. Et là-dessus on est clair, et donc faire tout pour que ça n'arrive pas, ça veut dire permettre aux Ukrainiens déjà de se défendre par eux-mêmes, et donc leur fournir les moyens matériel, logistique et financier pour pouvoir se défendre. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est des promesses et il n'y a rien qui vient. Enfin, ça n'arrive pas au bout. Quand on fournit 3000 obus à l'Ukraine par mois et qu'on s'enorgueillit de ça et que les Russes, eux, en tirent 20 000 par jour, il y a un écart qui est phénoménal. Donc, il faut, pour obtenir la paix, permettre aux Ukrainiens de se défendre.
Alors, l'Europe de la défense, hein, vous en avez dit un petit mot à l'instant. On l'entend depuis longtemps, cette idée d'Europe de la défense, mais quand on est en période de paix, évidemment, ça reste une idée, une vision un peu lointaine, une idée pieuse, je serais tenté de dire. L'Europe de la paix, aujourd'hui, elle devient une évidence, finalement. Il va falloir, vous me permettrez la métaphore sportive, mais changer de braquet et avoir une véritable Europe de la défense.
Il le faut. Il nous faut une Europe de la défense, tout simplement parce que on peut pas tous les 4 ou 5 ans se poser la question de qui va être le président des États-Unis et comment on va continuer à être sous tutelle militaire. C'est un peu l'adolescent qui dit quand je serai grand, je serai. Ben voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on devienne grand, qu'on devienne adulte. Et si on n'a pas cette Europe de la défense, on va à un moment donné se retrouver, on risque de se retrouver seul. Et une Europe de la défense veut dire tout simplement que les différents pays qui ont des moyens militaires, et on en a beaucoup en Europe, se coordonnent, s'organisent et ensemble un objectif commun qui est le maintien de la paix sur la totalité de notre territoire. Et aussi envers nos pays amis, comme est l'Ukraine actuellement. Donc là, il y a un vrai sujet d'Europe. Aller prétendre que, comme le dit l'extrême droite, nous avons l'arme nucléaire, donc nous n'avons que faire de nos amis européens, puisqu'ils n'ont qu'à se défendre tout seuls, nous, on se débrouillera. Quand on voit la propagande russe, c'est que ça passe sur les chaînes télévisées russes, qu'en gros, en 2 minutes 30, ils ont rasé Paris. J'ai envie de dire, on est un confetti à côté de la Russie, quoi. Donc il faut absolument avoir cette Europe de la défense, comme il faut absolument aussi avoir une Europe du protectionnisme par rapport à l'importation des produits étrangers, par rapport à la consommation de produits chinois, etc. Il faut une vraie politique pour soutenir donc une Europe de la production.
Hein? Une Europe, finalement, où on introduit un peu plus de politique, et j'allais presque dire aussi d'humanisme, quand on voit la guerre, évidemment, en Ukraine. Finalement, c'est aussi un tournant. Est-ce que l'Europe devient adulte? Est-ce qu'elle était adolescente?
Il faut qu'elle... Alors,
Pour reprendre votre formule.
Oui, je pense qu'on est dans une Europe actuellement adolescente qui en plus change d'avis dit quelque... Enfin, je parle du président de la République, par exemple, qui dit quelque chose, qui se dit pro-européen, qui appelle sa ligne besoin d'Europe et qui vote contre les progrès sociaux qui sont proposés par le Parlement européen, hein, la reconnaissance du viol, la protection des travailleurs type Uber, etc., la limitation des importations pour protéger nos industries, qui prône le libre-échange à tout va, et qui après dit « Non, l'Europe c'est bien, l'Europe... » mais voilà, donc il y a l'adolescent qui dit je veux, mais je fais autre chose, quoi. Donc on est dans une Europe adolescente, en effet. Donc il faut qu'elle devienne adulte, absolument. Et c'est ce qui donne encore plus le caractère... important à notre élection du 9 juin. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où cette élection européenne n'a jamais été aussi importante, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. La guerre, l'autonomie alimentaire, le changement climatique, toutes ces choses-là font que c'est maintenant. Voilà. C'est pas dans 5 ans qu'il faudra se dire « Ah, on a raté le cap ». Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit devenir adulte.
Avec beaucoup de sujets, on parlait de l'Europe de la défense tout à l'heure, il y a aussi l'Europe sociale. Aujourd'hui, on n'a pas une Europe sociale harmonisée, ne serait-ce qu'au niveau des salaires. Est-ce que là aussi, il faudra que l'Europe devienne adulte d'un point de vue social? Est-ce qu'il faudra travailler justement ce volet social?
Alors, la problématique de l'Europe sociale, c'est sur son... En fait, le problème qu'a l'Europe... actuellement, c'est son mode d'application des lois votées au Parlement européen, qui sont ensuite soumises à la Commission européenne et sur lesquelles tel ou tel chef de gouvernement, président, peut mettre son veto et ne pas les appliquer. Et il faut une unanimité, etc. Et donc, dès qu'il y en a un qui décide de ne pas être d'accord, imaginez une famille à 27 où, tant que tout le monde n'est pas d'accord, on ne s'assoit pas à table. Ça marche jamais. Donc, ce modèle-là, il faut changer... profondément le mode de fonctionnement, ou en tout cas le mode d'application des lois, pour le rendre plus parlementaire, voilà, et avoir une vraie politique qui soit une politique qui est votée au Parlement. Enfin, voilà, exactement, enfin, on vit la même chose en France avec le 49-3, le gouvernement et des parlementaires fantoches. Là, on a des vrais débats politiques de fond au Parlement européen, et lorsque ça passe, lorsque c'est fait après d'âpres négociations, la loi sur la renaturation, la restauration de la nature, etc., a été très, très difficilement obtenue, et après, elle est démantelée, démontée, déconstruite par la Commission et les différents chefs d'État. Donc il y a un vrai problème d'organisation. Et ça, je pense que c'est important que les citoyens lambda le comprennent, parce qu'en fait, quand on dit l'Europe, c'est comme si on parlait d'une vieille dame qui est un peu loin, alors qu'en fait, c'est toute une organisation qui est complexe, avec le Parlement européen, la Commission européenne, l'accord des 27, etc. etc. Donc, ça mérite d'être expliqué. Et je pense que, en plus du programme, en plus de ce que nous, on en veut, il faut qu'on explique aux gens quel est son pouvoir et quelle est sa puissance. Et on est, nous, pour une vraie Europe politique, avec une puissance politique et non pas une puissance de lobby, d'accord, d'arrangement. Et on sait très bien que les lobbyistes à la Commission européenne sont très forts, mais même au Parlement. Enfin, il y a un vrai poids. Et l'expérience de Raphaël Glucksmann, Aurore Lalux sur notre liste Place Publique et de tous ceux qui sont dans la liste PS Place Publique connaissent cette puissance-là. Alors, la loi sur la renaturation était un exemple flagrant.
Alors on a aussi une Europe qui s'inquiète face à différents sujets qui sont parfois, on pourrait le dire, un petit peu durs à traiter. Alors je vais parler de la gauche. En règle générale, quand on prononce le mot immigration ou insécurité, il y a un petit...
Là encore, c'est une vraie politique européenne qui peut permettre aux pays de gérer les flux migratoires, d'aider... tous ces gens qui meurent dans la mer Méditerranée ou qui sont entassés aux frontières comme ça s'est passé en Biélorussie il y a quelque temps, etc. Donc il faut qu'il y ait une vraie politique migratoire européenne avec une vraie répartition de ces flux migratoires sur la totalité du continent européen. Et ça n'est pas des arrangements de bureaux obscurs entre tel ou tel pays, etc., avec des politiques quelquefois d'extrême droite, quelquefois plus sociales. Il faut qu'il y ait une vraie politique... pas uniforme, mais en tout cas raisonné et harmonisé. Voilà.
Justement, aujourd'hui, il y a aussi l'anticipation. On sait que dans les années à venir, les flux migratoires vont être plus importants.
Tout à fait.
On parlait du dérèglement climatique, il est là aujourd'hui, on le constate.
Le dérèglement climatique qui va en plus engendrer un dérèglement politique.
Mmh.
Donc qui va s'accentuer par des problèmes politiques liés à des décisions de protectionnisme, etc., qui tout va s'emballer. Mmh. Il y a un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant jusque-là, tout va bien et demain sera meilleur. On sait qu'on va... On vit des crises aujourd'hui et on va au-devant de crises majeures.
Il faut les anticiper.
Donc il faut les anticiper.
Mmh. Avec justement des flux migratoires plus importants, des pays ne seront plus habitables, ou des territoires en l'occurrence ne seront plus habitables. Comment on va accueillir ces réfugiés climatiques? Parce qu'on parle de réfugiés climatiques.
Eh bien, les accueillir déjà dignement. Ça, on est sur notre liste tous humanistes et universalistes. Donc accueillir dignement, c'est la moindre des choses. Enfin, je suis breton, donc je sais ce que ça veut dire qu'accueillir dignement. D'ailleurs, moi, je ne suis pas breton de souche, donc j'ai été accueilli dignement par la Bretagne. Mais voilà, l'accueil est quelque chose... Terre d'accueil. La France est une terre d'accueil. C'est la France des droits de l'homme. Et donc déjà, partir du principe qu'un homme, une femme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, a les mêmes droits, les mêmes valeurs et doit être accueilli de la même façon, ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre ADN. Et donc d'y mettre les moyens. Et on sait aussi, et là, ceux qui sont contre cette, ou qui sont pour un blocage des frontières, une fermeture, etc., on sait que de toute façon, l'Europe a une problématique démographique, de vieillissement de la population, et qu'à un moment donné, pour faire tourner notre économie, pour faire tourner nos usines, pour avoir je travaille sur le sujet de la santé, sur le département des Côtes d'Armor, on sait très bien qu'on a besoin de main-d'œuvre étrangère. Donc, à un moment donné, il suffit juste de leur donner les mêmes droits que nous, leur permettre d'avoir les mêmes conditions de travail. Mmh. Et ça fait partie. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de dire accueillons le monde entier, on a la place pour tout le monde. Mais en tout cas, de le faire dignement, correctement. Et de tout simplement être humaniste.
Voilà. Ouais. Liberté, égalité, fraternité. On revient aux fondamentaux.
Ce serait bien que tout le monde y soit, en tout cas.
Il y a aussi le sujet de l'insécurité. Avec une gangrène, c'est le trafic de drogue aujourd'hui en France, y compris ici en Bretagne. On voit beaucoup de trafics qui se mettent en place. Est-ce qu'il faudra avoir à ce niveau-là aussi une politique, alors française sans doute, européenne certainement, plus coercitive, avec peut-être un travail de fond qui n'a pas été fait jusqu'à présent?
Alors, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, moi, personnellement, donc je vais avoir du mal à répondre, sachant que j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Mais je sais que sur tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'êtres humains, etc., il y a déjà une coordination européenne. Donc là, c'est un accord entre les différents pays. Et là-dessus, je pense pas qu'il y ait un vrai... Je pense pas que ce soit le sujet du 9 juin. On est sur des... Là, on est plus sur du fonctionnement, sur les méthodes de fonctionnement entre les pays. Et là, tous les pays ont intérêt à fonctionner ensemble et c'est pour ça qu'ils le font déjà. Ça n'a pas d'impact sur les politiques au niveau du Parlement européen.
Et ça a des impacts sur les populations qui ont peur, hein, quand on voit du trafic de drogue dans son quartier.
Oui, mais là, on parle de comment les pays européens coordonnent leurs actions et travaillent ensemble. Et c'est pas parce que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne qu'on arrête de travailler avec eux sur ces problèmes de trafic. Donc il y a une vraie coordination entre pays, quoi.
Autre chose, c'est l'abstention. Ce mot abstention qui fait un peu peur quand même, il faut bien le dire, elle reste importante. Elle le sera peut-être d'ailleurs, nous dit-on, plus marquée pour ce scrutin.
Moi, je ne le crois pas. Je pense que franchement, je pense franchement qu'on est sur. On a atteint des seuils, des niveaux d'abstention sur les élections européennes précédentes, en 2019. Là, les gens sont bien conscients qu'on a un problème de. La guerre est à nos portes. Voilà. Il y a des sujets qui sont européens, qu'on soit européiste ou non. Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai souci de la population par rapport à cette élection. Mais il faut continuer à aller convaincre les gens.
Il y a un sursaut finalement, un petit sursaut qui peut survenir du fait justement de ce contexte très compliqué, très anxiogène.
Oui, Oui, comme je le disais au début, on n'a jamais eu autant besoin de l'Europe que maintenant. Donc, si les gens n'ont pas compris ça, je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront. Toute l'actualité tourne autour des crises, de la guerre, et à chaque fois, on retombe sur la même lecture, qui est qu'en fait, on parle de continents, de continents entre eux. Quand on parle des problématiques jusqu'à l'énergie, jusqu'aux panneaux solaires, où là, en fait, on parle de la Chine, la Chine et l'Europe. On ne parle pas de la Chine et la France. Voilà. Si on parle d'agriculture, on reparle encore une fois d'Europe. Quand on parle d'alimentation, on parle d'Europe. Donc l'Europe est à toutes les sauces. Donc c'est bien pour ça que c'est important le 9 juin, d'une part d'aller voter, j'ai envie de dire c'est important pour toutes les élections, mais parce que cette fois-ci ce sont des élections cruciales.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de voir que cette élection, enfin ces élections européennes, tournent un petit peu au vote sanction contre le gouvernement et contre la personne président de la République? Il y a cette question.
Ouais, mais alors ça c'est un débat franco-français, purement franco-français. Alors déjà, on essaye de donner en France une importance surdimensionnée à la liste Renaissance, alors qu'au Parlement c'est la variable d'ajustement. Voilà. Mmh. Au Parlement, il y a deux gros groupes, hein, c'est la droite et la gauche, donc en gros le PPE et les sociaux-démocrates. Et c'est cette majorité, somme toute relative, mais ce poids, qui fait basculer la présidence et donc la politique du Parlement européen sur la gauche ou sur la droite. Et le groupe Renew n'est qu'une variable d'ajustement au niveau de... Une variable certes intéressante, mais une variable d'ajustement. On veut, et d'ailleurs c'est pareil pour Identité et Démocratie, dans lequel fait partie le Rassemblement National. En France, on a tendance à vouloir rejouer le match des présidentielles à chaque élection, aux municipales, aux régionales, aux législatives encore plus, et aux européennes. Et là, on veut nous faire croire que c'est un bilan mi-mandat du bilan d'Emmanuel Macron. Alors bon, le bilan d'Emmanuel Macron, j'ai pas grand-chose à en dire tellement il est mauvais. C'est pas le sujet, c'est pas du tout le sujet. On est sur une problématique européenne. Et là, je reprends la phrase de Raphaël qui est « Moi, je suis scolaire, je suis studieux, je réponds à la question. » Je réponds à la question « De quelle Europe voulez-vous le 9 juin ?» C'est pas « Êtes-vous pro-Macron, êtes-vous pro-Le Pen ?» C'est pas le sujet. De quelle Europe voulez-vous le 9 juin? Voulez-vous d'une Europe tendance Delors ou d'une Europe tendance Barroso? Voulez-vous d'une Europe économique de libre-échange ou une Europe sociale qui protège les agriculteurs, les employés, des plateformes, les femmes? Voilà. La question, elle est assez simple. Alors après, la deuxième question qui pourrait se poser, c'est voulez-vous d'une Europe? Et c'est là qu'on retrouve les deux extrémités du spectre politique qui, eux, n'en veulent pas. Et là, je pense qu'on en a assez parlé de... qu'elle était vitale.
Un dernier mot, l'Europe fédérale. Alors, en une petite minute, mon réalisateur me fait signe qu'il reste une petite minute, ça va aller très vite. Mais l'Europe fédérale, aujourd'hui, on parle beaucoup avec la Corse d'une forme de décentralisation. Là, ça se passe évidemment à l'échelle française. La Bretagne voudrait y prendre part à cette décentralisation et cette autonomie, le mot a été lancé. Est-ce qu'on va vers une Europe des régions, finalement ?
Bah, ce serait la meilleure des solutions, une Europe des régions. On subit au niveau régional le dictat national sur un certain nombre de points, que ce soit l'ARS, que ce soit les décisions préfectorales, etc. Et sous couvert de ce mot régional, le citoyen croit qu'en fait c'est géré au niveau de la région, mais ça n'est qu'une déconcentration de... si déconcentré il est, du pouvoir national. Mmh. Et donc, une Europe des régions pourrait donner toute la place aux régions et pourrait, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, être plus proche du citoyen, puisqu'on est sur le niveau régional, en fait.
Voilà, être plus proche du citoyen, il y a une attente, il faut le dire. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Olivier Houzé. Je rappelle que vous êtes co-référent départemental de Place Publique dans les Côtes d'Armor. Vous êtes également maire de Saint-Quay-Péros, il fallait le dire. C'est important aussi, l'échelle locale.
Local, tout à fait.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée.
Merci, au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.